t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. En République démocratique du Congo, de plus en plus, des cas, des déclarations et messages sont souvent diffusés dans les médias pour soutenir des personnalités qui sont soit accusées, soit interpellées par la justice dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Des cas de soutien ont été enregistrés dernièrement avec les femmes du FCC soutenant les présidents du Sénat, les élus du Congo central soutenant Némoine Dansemi, les élus de la Tchopo soutenant la ministre de la fonction publique. À cela s'ajoute également le caucus des députés qui soutiennent Gédéon. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant, bien entendu, les 081 890 63 30. Encore nous appeler directement au 09 97 06 63 30. Ou encore commenter ces sujets sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 13 643, comme nous le lisons sur notre page Facebook, à avoir été touchés par ces sujets. Et 300 parmi vous, vous l'avez partagé et 40, vous l'avez commenté. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets que nous vous soumettons au débat. Alain Goy assure la mise en œuvre de cette émission réalisée par Tatima Poku, J.R. Lungembo, Luabung, Angie, présente et coordonne cette émission.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Je lisais un commentaire d'un internaute qui parlait par rapport à ce sujet et dit ceci: il y a plusieurs mots qui gangrènent la vie politique en RDC. Au nombre de ces mots figure également cette manière des uns parmi les politiques de soutenir leurs amis, camarades et alliés en politique lorsque ces derniers tombent en disgrâce avec les pouvoirs en place pour n'importe quelle raison. Pour marquer leur confiance et témoigner leur soutien indéfectible à ces personnes, certains militants ou même certains citoyens, n'hésitent pas au travers des messages lus est diffusé à longueur de journée dans les médias, dénonce souvent ce qu'il qualifie d'acharnement ou de manipulation politique. Pourtant, certains penseurs estiment que la confiance des citoyens à l'endroit des responsables politiques, étant au cœur de la démocratie représentative, doit exiger l'exemplarité des responsables politiques qui devra se poser en termes de probité, d'impartialité ou de la déontologie. Depuis l'indépendance, cette mentalité de soutien est parfois sentimentale, à caractère souvent tribal, s'est enracinée avec comme conséquence des crises à répétition et des dialogues intempestifs. Voilà pourquoi certains pensent qu'il est nécessaire de moraliser la vie politique à RDC pour arrondir davantage les angles. Moraliser la vie avec une loi organique, est-ce suffisante? Nous tenterons donc au cours de cette émission de répondre à cette question. Nous avons en ligne Honorable Toigano Faustin qui est avec nous. Bonjour Honorable.
Bonjour JR, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Alors vous êtes politologue, au regard de la situation à RDC, qu'est-ce qui serait à la base de ces genres de soutien?
Bon, ce qui serait à la base de ce genre de soutien, là, mon cher ami, nous nous situons dans ce qu'on appelle la vie publique, dans ce qu'on appelle la vie politique, et la vie publique, la vie politique, c'est celle qui est organisée par les textes légaux, la Constitution d'abord, les lois et les règlements de la République, qui visent l'intérêt général, qui visent les objectifs communs. Alors, et ceux qui sont chargés d'atteindre cet objectif, c'est ce qu'on appelle les agents publics. Mais la question qui se pose dans notre pays est celle de savoir, est-ce que la République s'est mise d'accord sur un ensemble de principes, sur un ensemble de valeurs, sur des règles de conduite relatives au bien et au mal, sur un ensemble de valeurs parfois érigées en doctrine? J'ai dit oui, parce qu'il y a une loi. Il y a une loi votée par le représentant du peuple qui porte sur le code de conduite de l'agent public de l'État. Mais qu'est-ce qui fait que cette loi ne soit pas respectée. Tout est dit dans cette loi, comment un agent public, comment un responsable public, comment un homme politique doit se comporter vis-à-vis de la société par rapport à sa mission et vis-à-vis de son devoir d'État. Mais il y en a qui respectent, hein. On ne peut pas dire que dans ce pays, il n'y a pas des hommes respectueux de la loi, il n'y a pas des hommes respectueux de la morale publique. Il y en a, il y a des hommes intègres dans ce pays. Mais il y en a aussi, et c'est ce qui justifie l'exception, des gens qui ne se comportent pas comme voulu par la société. Et à la base de ça, il y a plusieurs facteurs, plusieurs facteurs. Et d'abord, au niveau de la vie politique, nous devons savoir que chaque parti politique a ses règles de conduite et chaque parti insiste sur la notion de la discipline, sur la notion de la loyauté, sur la notion de la participation. Vous voyez ? Alors, cela fait que, au nom de ces principes érigés en doctrine dans un parti politique, il est difficile de voir un militant d'un parti politique au nom de la discipline. Peut-être il faut savoir qu'est-ce qu'on attend par la discipline dans un parti politique, qu'est-ce qu'on attend par la loyauté dans un parti politique. Ça, c'est encore une autre matière. Mais au nom de ces principes-là, acceptés par tous les membres d'un parti, il est difficile de voir un cadre d'un parti, un militant d'un parti, passer sur la place publique, essayer de condamner à haute voix les comportements déviants de son leader, les comportements déviants de son camarade du parti. Il y en a de même au niveau des autres groupes sociaux, même au sein de l'Église. Il est difficile, hein, parce que la vie publique, ce n'est pas seulement les partis politiques, hein,
tout à fait.
Même au sein de l'Église. Vous voyez, il est difficile, au nom de la solidarité, au nom de la fraternité dans une église, de voir un fidèle passer sur la radio, à la télévision, essayer de se mettre à condamner à haute voix son chef spirituel, son frère, sa sœur de l'église. Donc, il y a toujours ces valeurs-là. Donc, à la base, je pense qu'il y a un problème d'abord, se poser la question, est-ce que nous nous sommes mis d'accord, la société congolaise, sur l'ensemble des valeurs à respecter, sur l'ensemble des principes qui doivent guider notre vie, sur l'ensemble de ce qu'on appelle la conscience collective, la conscience individuelle. Est-ce que nous sommes mis d'accord à ce niveau-là? C'est ça un grand chantier que nous devons vraiment
oui, mais de plus en plus, de plus en plus, professeur, oui, honorable Faustin Toegano, oui. Il y a un auditeur qui l'a dit tout à l'heure, cette mentalité, disons, s'est enracinée, et elle a été observée depuis la nuit des temps, depuis le début de l'indépendance. Lorsque on remarque ceux qui soutenaient Kassavubu, en tout cas de manière positive, l'ont accompagné, l'ont soutenu jusqu'à la fin, et ceux qui étaient du camp de Lumumba ont fait pareil, et cela a pris corps tout au long des générations. C'est comme si le Fembo a été passé de génération en génération. Aujourd'hui, on a du mal parce que c'est déjà enraciné, donc ça serait difficile de changer la donne.
Mais cet auditeur a tout à fait raison, parce que c'est ça justement la preuve de l'absence d'une nation. Nous avons encore à construire notre nation, parce que nous n'avons pas une même vie politique, nous n'avons pas une même vision, et nous ne partageons pas les mêmes valeurs et les mêmes principes de la vie publique. Donc, la manière dont le pays a été construit, la manière dont le pouvoir initial a été construit, la manière dont les communautés africaines ont été rassemblées pour créer des États, et c'est une matière discutable, ce qui fait que nous avons encore des sociétés qui ont difficile à reconnaître qu'ils appartiennent à une nation avec d'autres sociétés, d'autres communautés ethnico-tribales, pour parler d'abord sur le plan sociologique, et cela vient se renforcer avec la notion de pluripartisme, de multipartisme, mal compris, et c'est ce qui a fait même dire, à un moment donné de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire de notre pays, qu'on puisse mettre fin à toutes ces particularités pour tenter de forger une nation à travers des partis uniques. Mais là encore, la question a été mal gérée. Et il y a aujourd'hui des gens qui pensent que s'il y a un héritage positif qu'on peut reconnaître du parti État, c'est cette volonté de vouloir construire au cœur de l'Afrique une nation où les Bangala, les Baluba, les Bakongo, les autres pouvaient à un moment donné oublier leurs particularités pour se reconnaître tous des Zaïrois. Mais évidemment, il y a eu des dérapages dans cet effort qui était pourtant louable. À partir du moment où on pouvait voir un administrateur de telles provinces affectées très loin et dans une autre province, et un gouverneur originaire de telle province affecté très loin de sa province, cela contribuait à asseoir l'unité nationale et à construire certaines valeurs positives, voyez, qui, dans une certaine mesure, pouvaient contribuer à une certaine moralisation de la vie publique. Mais dans tout cela, le grand problème, c'est que on n'applique pas la loi. Parce que la vie publique est organisée, est réglementée. Voyez, on a légiféré sur ça. Mais lorsque on ne contrôle pas et lorsque on ne sanctionne pas les déviations, les violations de ces principes, de ces règles qui sont pourtant
c'est ce qui serait à la base
légitimes,
de tout ça.
Voyez, et adoptées selon les procédures requises, évidemment, nous allons continuer à regretter. Donc, il faudrait quelque part qu'il y ait une impulsion pour ramener tout le monde au respect de la loi, au respect des principes et au respect des règles régulièrement adoptées et partagées par la communauté.
Voilà, professeur Toegano, nous vous gardons en ligne. Il est temps de parcourir le standard et d'accueillir les autres auditeurs qui nous ont rejoints pour débattre ensemble avec nous sur cette question des soutiens indéfectibles à certaines personnalités qui sont tombées parfois en disgrâce avec le pouvoir pour n'importe quelle raison. Alors donc, est-ce que ces questions de solidarité, vous l'avez dit, l'absence d'une nation, l'absence d'un État bien construit, donc c'est ce qui fait que qu'on connaît toutes ces difficultés. Olivier nous a rejoint, Madame Zouzi également, qui est à Kinshasa, 09 97 06 6 3 0 ou encore le 09 97 06 4 9 pour votre intervention en direct.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le plus de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Olivier, vous êtes avec nous à Kinshkwit. Bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Quel est votre avis, Olivier?
Oui, J.R., c'est tout simplement décevant ce que nous sommes en train de vivre. C'est vraiment très décevant. Et cela montre clairement que nous ne sommes pas formés. Nous ne savons pas ce que c'est que la politique. Et ici, le tort se trouve du côté de la population, mais aussi plus du côté des politiciens. Et cela démontre que les attachements que nous voyons dans la politique et ailleurs sont des attachements aux personnes et pas aux idéaux. Donc il n'y a pas d'idéologie qui attire les gens. Ce sont les personnes. Et cela vient du fait que, chez nous, tout se résume à la famille. Tout se résume à la tribu. Tout se résume à la province. Et ça, vous l'avez déjà dit, c'est depuis l'indépendance. Et nous n'avons pas encore dépassé ce stade. Et nous n'avons pas encore formé suffisamment de personnes de façon profonde. Parce que dans ce comportement, nous sommes en train de déquiller aujourd'hui, vous trouvez les citoyens ordinaires, mais vous trouvez des professeurs, vous trouvez des gens qui se disent notables, et c'est ça qui est dramatique. Et moi, je me dis que On n'est pas formé. Les politiciens ne savent pas ce que c'est la politique et ils ne savent pas à quoi ils s'engagent quand ils se passent de la politique. La vie publique, l'intérêt général, ce sont des choses qui sont liées. Mais chez nous, ce n'est pas justement, c'est ça le grand problème. Et donc, je me dis que l'école ne nous aide pas aussi. Parce que nous avons des facultés de sciences politiques qui n'apprennent pas aux ressortissants de ces facultés ce qui fait que la politique ou bien comment se comporter un homme politique. Et nous avons un autre problème, c'est que nos hommes politiques ne lisent pas. Et moi, j'ai toujours dit que quand on se lance dans la politique, à principe, on doit se ressourcer. Nous avons des écrits, nous avons Socrate, Platon, nous avons Jean-Jacques Rousseau qui ont défini le comportement des hommes politiques. Et dans d'autres pays, tous les hommes politiques s'intéressent d'abord à l'histoire. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. L'histoire, beaucoup ne connaissent pas. Et c'est comme ça que les mêmes erreurs reviennent d'année en année sans que les gens prennent conscience que cette erreur a déjà été commise. Et donc, moi, je suis scandalisé de voir que on peut trouver, vous avez vu, avec l'affaire du directeur de cabinet à l'UNC à Bukavu, on s'est soulevé avec l'histoire de Gédéon. On a vu des notables du Katang qui sont soulevés. Et ça continue avec Mwanansemi. Donc, ce n'est pas normal. Et ça, c'est une manifestation d'une insuffisance de connaissances politiques. Alors, les politiciens, le public, la population ne veut pas croire que les leaders peuvent commettre des fautes. Alors que, il y a un psychanalyste, Freud, avait déjà dit, il faut que tout le monde comprenne que tout homme est capable d'actes irrationnels, névrotiques et psychotiques. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons des politiciens qui sont en train de sortir leur capacité dans le domaine de l'irrationnel.
Mais est-ce que, Olivier, quelqu'un qui est injustement sanctionné ou encore quelqu'un qui tombe en disgrâce de manière un peu liée à l'acharnement, est-ce qu'il ne peut pas trouver des sympathies, la sympathie de ses frères, de ses camarades, de ses amis ou de ses alliés de la politique? C'est tout à fait normal.
Non, ce n'est pas normal lorsque il y a une faute supposée, une faute présumée. Il faut que les gens se réservent et qu'ils disent, voilà, s'il y a faute, observons. Mais au cas où il n'y a pas faute, c'est là qu'ils peuvent sortir leurs actes. Mais dès qu'on saute sur une personne, voilà, nous soupçonnons un détournement.
Ou une manipulation politique.
Alors, les gens, c'est le parti politique qui se soulève, là, ce n'est pas normal. Et ça, c'est induire la population en erreur. Et vous savez, un autre défaut, c'est quoi? C'est que nos politiciens s'accrochent à leur base. Lorsqu'il y a un problème, on le surprend, même la main dans le sac, il appelle la base. Voyez ce qu'on fait de moi. Je suis votre leader. Et c'est parce que, justement...
Voilà. Certains... Merci beaucoup, Olivier. Donc, on verra avec notre invité tout à l'heure les caractères sociologiques des élections aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup des acteurs politiques qui sont montés au créneau pour demander à ce qu'on puisse revoir la loi électorale. Et parmi les réformes, notamment, ils insistent sur les caractères sociologiques des élections, qui seraient aussi une pesanteur qu'on doit normalement chercher à écarter, à élaguer, pour finalement laisser place à la moralisation de la vie politique. Merci Olivier. Alors Madame Zouzi, vous nous avez rejoint, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour Madame Zouzi.
Bonjour.
Vous êtes actrice politique et puis membre du FCC. On vous a remarqué dans votre sortie parmi les femmes qui ont fait le message de soutien à Alexis Thambwe Mwamba. Aujourd'hui, Absolument. C'est vrai. Alors voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est ce genre de soutien se justifie réellement?
Oui, bien entendu, ce genre de soutien se justifie absolument parce que Monsieur Alexis Thambwe Mwamba a un passé quand même d'homme politique depuis la Deuxième République et nous savons que c'est une personnalité qui a eu à gérer ce pays et qui s'est distinguée positivement, raison pour laquelle durant les différents passages des présidents des différents chefs d'État, il a toujours été appelé aux affaires. À cause, et puis c'est un homme intègre, c'est un père de famille, c'est un responsable. Il est inadmissible de voir une femme prendre, n'est-ce pas, sa qualité de femme pour essayer de nuire à une personnalité. Hein, c'est scandaleux. Vous posez des questions, C'est votre droit. Vous êtes à, au Sénat, vous avez le droit de vous interroger. Mais attendez qu'on vous réponde. Vous ne pouvez pas traiter une personnalité insulter une personnalité de tous les noms sur les réseaux sociaux et prendre le document même qui a été envoyé à cette personnalité-là.
Oui, madame. Oui, madame. Oui. Je reviens parce que ce n'est pas la première fois qu'on observe dans les milieux politiques ces genres de soutiens. Alors, vous, personnellement, vous pensez que ces soutiens, comme je l'ai dit, auraient comme sous-bassement les caractères sociologiques des élections ou encore notre appartenance à une partie, à un parti politique et disons auquel on fait confiance ou on soutient des individus.
Nous sommes des Africains. Oui. C'est pas parce que nous nous retrouvons en politique que nous devons oublier notre être le plus profond. La femme est gardienne du temple. La femme doit avoir un comportement de dignité, un comportement qui amène le respect, qui suscite le respect de la part des autres. Une femme ne peut pas comme ça ne pas se contenir et avoir un comportement au sein d'un Sénat où
alors, imaginez, madame.
J'avais honte d'être femme.
Oui, madame.
Et en plus de ça,
madame, imaginez.
Imaginez
d'un camp ceux qui, disons, des femmes qui soutiennent une position, et de l'autre côté, et d'autres femmes qui soutiennent également. Tous se disent, bon voilà, nous soutenons une idéologie. Comme le disait tout à l'heure le professeur, c'est par manque de respect de la loi qui existe, le code
On ne peut pas soutenir une personne uniquement parce que c'est une femme. On doit soutenir des valeurs.
Je prends le cas de manière générale.
Il y a la loi qui est là également, qui demande à ce qu'il y ait un certain comportement dans la société. On doit soutenir des valeurs, faire l'apologie des valeurs. On prétend vouloir être femme d'État. Nous sommes battus pour l'article 14 qui a été de la Constitution que le peuple congolais a voté. Mais cet article 14 nous donne des droits, mais nous donne également des obligations vis-à-vis de la société. On ne peut pas tout simplement vouloir des avantages et ne pas accepter d'adopter un comportement égal aux autres sénateurs. On doit être pareil. On doit savoir qu'un acteur politique, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, doit avoir un comportement de respect, n'est-ce pas, dans la société.
Alors, madame, une question de curiosité. Et tout ce qu'on a observé, qu'il s'agisse au niveau de caucus des députés du Katanga, des notables des Katanga qui soutiennent Gédéon, ceux du Congo central qui portent leur soutien, en tout cas indéfectible, à l'endroit de Némoin Dansemi. Et comment vous commentez cela?
Écoutez, moi, j'aimerais faire surtout, puisque j'ai la possibilité à travers vous de m'adresser aux femmes congolaises, souffrez que je parle de ce que je considère comme étant un scandale qui vient de se passer.
Restons de manière générale. Restons de manière générale. Ceux qui soutiennent Gédéon, ceux qui soutiennent également Némoin Dansemi, et quelque part d'autres qui, en tout cas à longueur de journée, continuent à soutenir Vital Kamerhe. Quel est le commentaire que vous...
La moralité, il faut qu'il y ait des principes moraux, il faut que nous restions quand même respectueux, non seulement des textes, mais également respectueux de nos coutumes. Nous ne pouvons pas vivre comme des animaux. Il faut quand même respecter la société dans laquelle nous vivons. Or, je parle de façon générale. Il faut que lorsqu'on défend des valeurs, des valeurs positives, qu'on se tienne à cela, n'est-ce pas, et qu'on n'ait pas un comportement ambigu, qu'on n'ait pas un comportement léger, surtout en politique où on doit être une valeur et on doit être un véhicule, n'est-ce pas, de valeurs vis-à-vis de la société en général. C'est ce que je voudrais dire d'une façon générale.
Merci beaucoup, madame Zouzi.
Et m'appuyer sur la femme qui doit quand même montrer qu'elle est la gardienne du temple de par les valeurs qu'elle montre dans la société et le comportement qu'elle affiche.
Merci beaucoup, madame Zouzi, d'avoir appelé des questions générales. Alors, on va prendre Héritier qui est à Bounia. Héritier, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution, Héritier?
Bon, merci de m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution, Héritier?
Ce que je veux dire, dans notre pays, ce qui manque à l'RDC, l'absence de sanctions. Lorsque un policier fait du mal, fait des dégâts quelque part, ou bien il est ministre quelque part, lorsqu'il fait des détournements, ce qui manque dans notre pays, c'est les sanctions. La justice n'arrive pas à sanctionner les personnes qui commettent toujours le mal, il est laissé à liberté comme ça. Non, c'est ça des choses à éviter dans notre pays. Comment, lorsque on connaît la personne qui a détourné les fouets publics, comment on peut laisser une telle personne? C'est ça qui pue notre pays. Les sanctions, le manque de sanctions, l'ingopatibilité de notre justice, vraiment, c'est déplorable.
Merci beaucoup. Le cas d'impunité, vous évoquez ça comme raison qui fait qu'aujourd'hui, que les gens de l'obédience de celui qui était incriminé puissent monter au créneau pour lancer ce genre de messages. Merci beaucoup, héritier. On revient à vous, professeur Togano. Vous avez suivi les uns les autres, mais il y a une question qui vient d'être soulevée, le caractère sociologique des élections. Vous êtes en ligne, professeur?
Je suis en ligne, je vous suis.
Voilà, je disais tout à l'heure que le caractère sociologique des élections constitue quand même une pesanteur aussi, hein, pour arriver vraiment à la moralisation de la vie politique.
Tout à fait. La réflexion qui devait se faire sur les élections dans notre pays mérite d'être faite. Le chef de l'État a même suggéré qu'on puisse réfléchir sur la loi électorale. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose concernant les élections dans notre pays, comme dans la plupart des pays africains et du tiers-monde. J.R., je dois vous dire que peu importe tout ce que nous allons monter comme système électoral, voyez, il y a deux principaux pesanteurs qui feront toujours qu'on aura toujours, d'une manière ou d'une autre, les élections qui auront difficile à se défaire de caractère sociologique. Des principaux éléments, notamment, c'est l'ignorance. Voyez, l'élection, c'est un pilier de la démocratie. Et la démocratie repose notamment sur la liberté. Voyez, la liberté de mettre son opinion, la liberté de choisir son représentant, la liberté de penser. Mais dans une population majoritairement ignorante, majoritairement analphabète, il est difficile d'atteindre cet objectif. Voyez, on ne peut pas être libre, voyez, dans l'ignorance quand on ne sait pas lire la loi pour savoir quels sont ses droits, quels sont ses devoirs et comment s'y prendre vis-à-vis de la société. On aura toujours difficile à réussir cela. Le deuxième pesanteur, voyez, qui va toujours fausser nos élections, c'est la pauvreté. Voyez, élire quelqu'un et de son choix signifie qu'on a une petite autonomie, on a une petite liberté, mais on ne peut pas être libre dans la pauvreté. Qui sont ceux-là qui sont facilement mobilisés pour élire terre dans notre pays, dans le continent africain? En majorité, ce sont les pauvres. Il suffit de leur amener des petits cadeaux, des petites choses. Vous les voyez comment ils sont nombreux à accueillir tel autre et à se mobiliser pour tel autre. Donc, tant que nous serons dans cette pauvreté, et peut-être les hommes politiques ont compris qu'il faut entretenir la pauvreté pour continuer à manipuler la population et avoir des résultats des élections tels que voulu, mais on va continuer à aller dans ce sens. Donc, on peut bien modifier la loi électorale, mais je ne vois pas comment on va essayer de laguer la dimension sociologique. Je ne sais pas comment on va essayer de se départir des pesanteurs ethnico-tribales. Je ne sais pas comment on va le faire.
Oui, mais quand vous évoquez la pauvreté, professeur, c'est oui. Vrai, d'aucuns peuvent les comprendre du côté des citoyens ordinaires. Mais quand on remarque, qu'on observe, un auditeur l'a dit tout au long de cette émission, que des élites, des professeurs d'université, et voire même certaines notabilités, faire des déclarations dans les médias, des soutiens de certains hommes politiques qui sont impliqués dans les malversations ou encore dans les détournements.
Mais justement, même évidemment, lorsque vous parlez des professeurs d'université et tout ça, oui, ils sont combien qui vivent comme professeurs d'université dans les pays qui se respectent. Ils sont combien dans notre pays, voyez. Évidemment, parce que tout le monde voudrait aujourd'hui s'engager dans la politique. Les professeurs d'université sont en train de quitter les universités pour s'engager dans la politique parce qu'ils ont compris que c'est là où on peut facilement se retrouver et essayer de répondre à ces besoins qu'on n'a pas pu satisfaire depuis des années. Alors, si on a la possibilité d'avoir à ses côtés un homme politique fort, il faut s'accrocher à lui pour espérer demain, l'endemain meilleur. Et donc, tout cela, à la base, c'est la pauvreté. Si les professeurs d'université étaient traités dignement, comme on le fait dans d'autres universités qui se respectent, en tout cas, ils ne seraient pas nombreux à envier les postes ministériels. Ils ne seraient pas nombreux à envier d'être députés. Ils ne seraient pas nombreux à envier d'être PDG des entreprises. C'est parce qu'on a paupérisé les professeurs d'université qu'on est en train de les voir facilement mobilisables en faveur de tel ou tel homme politique. Je pense que ça, c'est un élément sur lequel nous devons beaucoup travailler pour rendre les professeurs d'université libres, voyez, pour les rendre autonomes, afin qu'ils s'occupent véritablement de la recherche. Aujourd'hui, on a besoin d'eux parce qu'il y a le Covid-19. Mmh. On recourt maintenant aux professeurs d'université, on recourt maintenant aux chercheurs. Mais hier, avant cela, mais ce sont des quantités négligeables qui s'occupaient des professeurs d'université. Maintenant, ils sont utiles parce qu'il y a un problème important de la société. Voilà, mmh. À cause de la pauvreté, mais ils n'ont pas de choix. Parce qu'ils doivent vivre, ils doivent faire vivre leur famille.
Mais ça, c'est vrai. Mais
il y en a quand même qui réussissent à se démarquer de ça. Ce n'est pas une loi générale. Hein. Il y a des professeurs qui, malgré toutes les pressions politiques, ils gardent leur autonomie, ils gardent leur personnalité et ils s'affirment, ils continuent à écrire librement et à publier leurs pensées dans les écrits et qui sont utiles pour la société.
Voilà. Donc, quand vous avez évoqué les deux éléments, l'ignorance et la pauvreté, c'est comme pour dire que la route vers la moralisation de la vie politique, ce sera vraiment un parcours de combattant en RDC.
Ça sera certainement un parcours de combattant. Mais on peut y parvenir. On peut y parvenir parce que nous avons un instrument, mais qu'on n'utilise pas assez. Hein. Nous avons une voie à suivre, mais qu'on n'en prête pas. Je l'ai dit, c'est l'application, le contrôle et l'application de la loi. Lorsque tout comportement déviant est identifié et sanctionné correctement, régulièrement, et tout le monde considère cela comme étant vraiment une façon de maintenir la vie publique, de moraliser la vie publique, parce que la loi qui existe, c'est ce qu'il faut pour moraliser la vie publique. Il n'y a pas une autre voie pour moraliser la vie publique que d'élaborer les lois générales, les règlements, et il faut que ces lois et ces règlements soient d'application. Mmh. Il y a des instances qui ont réussi de la nation cette mission de veiller à ce que chacun puisse organiser sa conduite, puisse suivre scrupuleusement les lois de la République. Alors, quand à ce niveau-là, l'instance qui est habilitée à faire ce travail, elle aussi est plongée dans les antivaleurs, alors on ne sait pas à quel sens se vouer.
Des cas de soutien ont été enregistrés dernièrement avec les femmes du FCC soutenant le président du Sénat, les élus du Congo central soutenant Nemoine Nsemi, les élus de la Tshopo soutenant la ministre de la fonction publique. Michel, vous êtes à Guadolite, comment commentez-vous cette situation?
Oui, merci beaucoup. Je vous salue d'abord, JR. Merci de m'avoir associé à ce débat. Je voulais aborder ce sujet sous deux points. Je pense qu'il se pose un problème d'abord des crises de modèles au sein de notre pays, mm-hmm. et puis les problèmes de l'impunité et qui serait à la base de tous ces problèmes-là, JR. Alors, prenons le premier cas. Je voudrais dire que le problème de crise des modèles dans notre pays se situe à quel niveau? Parce que vous savez vous-même combien déjà de dirigeants que nous avons et puis quelle est leur provenance. Leur provenance souvent, ça vient des rébellions, d'autres sont provenus des rébellions, d'autres viennent de groupes de pression, et tellement qu'ils gênent dans leur manière de revendiquer les droits à travers des manifestations. D'ailleurs, même qui n'est pas pacifique, mais pour que le gouvernement puisse et puis éviter ce genre de rébellion, ce genre de manifestation, souvent, et il obtient pour ce qu'on appelle la négociation. Et nous avons un gouvernement qui négocie même avec des rebelles, au point que les gens ont compris que bon, la seule manière pour accéder au pouvoir au Congo, c'est intimider le gouvernement en place avec des rébellions, soit avec des manifestations pour que quand on aura peur, on vous appelle, vous avez trouvé votre problème, votre cause et le problème est réglé. Et ce genre de choses a fait en sorte que nous ayons une crise de modèle et puis cela est resté comme une jurisprudence dans les chefs de tout le Congolais. Tout le monde sait que bon, voilà, il faut bouger les lignes d'une autre manière de façon que l'on soit considéré au Congo. Voilà ce qui fait en sorte que on a autant de dirigeants qui sont l'incarnation des anti-valeurs.
Oui, mais Michel, mais ils vous obligent pas de les soutenir en cas de problème. Mais c'est la population, comme l'a dit les professeurs, qui vit dans une certaine pauvreté et qui ne sait pas à quel sens c'est voué et ils n'ont pas d'autre solution en face. Et ils font confiance à toutes ces personnes qu'ils ont un peu portées au sommet de l'État et en tournant, ils sont contraints de pouvoir les soutenir à tout prix, malgré leurs fautes.
Oui, c'est ça. C'est là où je voulais m'atteler sur le deuxième point quand j'ai parlé de l'impunité. Comme à la base aussi, parce que vous savez, dans tous les pays, lorsqu'il n'y a pas le droit, lorsqu'il n'y a pas une justice équitable, une justice rigoureuse, les gens vont se comporter comme ils veulent, parce que les gens ont un sentiment, le sentiment des natifs sauvages, et il n'y a seulement que le droit qui essaye de garder tout le monde. Si on savait, par exemple, que lorsqu'on est en train d'influencer la justice, qui est en train de poursuivre son bonhomme chemin, si l'instruction d'un dossier, et que vous venez avec des manifestations tendant à influencer les juges, et voilà, il y a telle chose qui est prévue.
Il y a telle sanction.
Je pense que ce comportement...
Les gens vont s'abstenir. Merci beaucoup, Michel, d'avoir appelé de Guadolité. Trésor, vous nous avez également rejoint, vous êtes à Kinshasa. Trésor, bonjour.
Bonjour, JR. C'est vraiment regrettable, monsieur JR. En tout cas, la question des bonnes moralités échappe à beaucoup d'hommes politiques congolais. Voilà, en fait, je pense pour que cette situation soit régularisée, il faut une loi. Une loi qui doit être votée par les parlementaires, c'est ça leur travail. Donc vous verrez que même ici à Kinshasa, bon nombre d'hommes politiques, surtout les opposants, leur rôle, en fait, ils pensent pour se faire connaître, pour se faire identifier dans la masse, il faut procéder par des cibles, surtout à ceux qui dirigent. Et donc, c'est ça leur mode, c'est ça leur façon de vouloir, en fait, se faire identifier. Et je vais dire aussi une chose, M. Jir Lungembo. Vous verrez que le FCC, en fait, le FCC, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de membres du FCC, ils ont eu à gérer ce pays, ils ont contribué pendant 18 ans, je vous dis bien. Mais aujourd'hui, ils sont moins donneurs de leçons. Partout, ils veulent des leçons, qu'il n'avait pas donné lorsqu'il était au pouvoir. Vous verrez l'histoire de Gédéon Kyungu, l'histoire de Mwanase. Je pense que de ces gens, la paix sortir quelque chose de bien. Gédéon, de notre côté, à Lubumbashi, on a voulu le bouger, on a voulu qu'il soit arrêté. Vous avez vu la notabilité katangaise. Ils se sont soulevés contre le pouvoir en place. Pour eux, ils considèrent que ce que Gédéon est en train de faire, c'est une bonne chose. Tout en ignorant que ce qu'il est en train de faire, en outre, il y a des innocents qui sont en train de faire quoi? De mourir au jour le jour à cause de ça. Moi, ancien, vous avez vu ce qu'il a fait autrefois. Pendant qu'on est en train de se protéger contre 19, moi, ancien, a eu à réunir les gens en public, monsieur les journalistes, pour leur faire voir des histoires impossibles qui n'ont même pas de sens. À cause de ça, il y a eu même des contaminations. Monsieur les journalistes, ce sont des choses qu'on pas s'y porter, qu'on ne peut pas, s'ils veulent réagir, s'ils veulent qu'ils soient écoutés.
Donc si je comprends bien, Trésor.
Il y a des moyens qui sont violents, des moyens qui ne sont pas bons. Par exemple, on ne trouve pas quelque chose de nécessaire dans tout ce qu'ils font. Moi, je pense qu'il faut que les parlementaires interviennent, qu'ils puissent voter une loi grâce à laquelle on pourra en fait régulariser toutes ces situations-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis ça, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Trésor. Alors, Maître Edmond, vous êtes à Mbandaka, bonjour, et merci de nous avoir rejoints.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la Fréquence de la Paix.
Alors, si j'ai compris, Trésor, il voulait parler plutôt de ce soutien qui semble être un soutien aveugle. Est-ce que vous soutenez cela, Maître Edmond?
Voilà. Bon, moi, ma position, j'ai suivi les débats, les différents argumentaires des uns et des autres. Moi, je crois que dans un premier temps, dans un aspect, ce qui est à bannir, parce que il y a certains soutiens, bien sûr, de ces personnalités interpellées, ce sont des soutiens à caractère tribal. Là, c'est à condamner. Mais moi, je voudrais aussi dire que dans notre pays, la plupart de ces interpellations, en tout cas, ce sont des interpellations, à mon avis, ce sont des interpellations qui se font d'une manière politique. Donc, ce sont des interpellations qui se justifient d'autre part. Par exemple, lorsque les personnes se soulèvent, étant donné que les interpellations sont attachées de plusieurs irrégularités procédurales, généralement, la plupart d'interpellations ont une connotation politique, ce qui fait que les militants des partis politiques se soulèvent. Donc, à mon humble avis, je ne trouve aucun mal pour un groupe de personnes de s'exprimer pour manifester
Donc, si je comprends bien, pour vous, c'est une réponse à une certaine injustice à laquelle on fait face à une certaine frustration.
Oui, oui, la plupart de manifestations, c'est face à une certaine injustice procédurale. Et puis, c'est soulèvement de la population, des militants ou des personnes d'un groupe. Je crois que ça n'a aucune influence sur la procédure judiciaire. Même si les gens se soulevaient, les gens exprimaient leur attachement à une personnalité. Ça ne peut pas influencer sur les décisions que les cours des tribunaux doivent rendre. Donc c'est un peu ça mon avis.
Merci beaucoup Edmond. Alors on revient à vous, professeur Togalo, honorable Faustin Togalo. Le temps peut-être de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qui peuvent également participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Tunapenda kuhakikishia wenzetu kutuliza kwa kuheshimu hatua zifuatazo za usafi ni kuosha mikono mara kwa mara na kuangalifu na sulisho la maji yalimo dawa au kwa maji na sabuni. Weka umbali wa angalau mita moja kutoka kwa watu wanaokohoa au kupiga chafya, epuka kugusa macho, pua na mdomo. Katika kesi ya kukohoa au kupiga chafya, funika mdomo na pua na viwiko zaidi au na kitambala ya kutupwa mbali baada ya matumizi. Huu ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya ya Umma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkataza wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa coronavirus.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Parole aux auditeurs se poursuit sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Professeur Toegano, vous avez suivi les uns les autres. Tout à l'heure, il y a certains parmi eux qui ont évoqué la question de des frustrations et aussi de l'injustice qui serait également à la base de ce genre de messages lorsque certains se sentent touchés au travers soit de l'interpellation ou encore des sanctions qu'on inflige à leur leader.
C'est tout à fait normal, JR. Je pense que ceux-là n'ont pas tort, parce que je dois vous rappeler que dans le fonctionnement d'un système politique, les soutiens, les demandes, les oppositions sont tout à fait justifiées. Vous voyez, on doit toujours rencontrer cela, et ce n'est pas seulement chez nous. Bien sûr, ça prend des formes différentes, mais on aura toujours à constater qu'il y a tel groupe qui soutient tel ou tel dirigeant politique, telle ou telle décision politique, et il y a tel groupe qui formule des revendications, voyez, parce que ne trouvant pas son compte, voudrait bien que ses positions, que ses besoins, que ses préoccupations soit prise en charge par ceux qui ont la responsabilité de gérer la société, et il y a d'autres groupes qui s'opposent. Hein, ils s'opposent pour des raisons différentes, ils s'opposent parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, ils s'opposent pour faire échouer ceux qui sont au pouvoir afin que demain,
et accèdent au pouvoir et gèrent aussi à leur manière. Donc ça d'abord c'est quelque chose qu'on aura toujours à rencontrer dans le fonctionnement des systèmes politiques. Mais le plus important maintenant c'est de voir comment on doit faire de sorte que tout cela soit bien géré, bien régulé, afin qu'il n'y ait pas de dérapage, afin que tout se passe conformément aux normes établies. Parce que la loi de la République permet à ce qu'un groupe puisse apporter le soutien à tel autre groupe, à tel leader politique. Mmh. Quand vous lisez la loi sur les partis politiques, il n'y a pas de parti politique lorsqu'il n'y a pas de militants. Et vous voyez, et les militants qui adhèrent à un parti politique signent pratiquement un contrat avec les dirigeants de ce parti politique. Mmh. Ils doivent loyauté, fidélité, ils doivent observer certaines disciplines conformément au règlement intérieur de ce parti politique. Alors, ne pas le faire, on est donc obligé de quitter ce parti pour aller devenir libre ailleurs. Mais quand on adhère à un parti politique, c'est comme un chrétien qui adhère à une église. Mais il doit respecter la loi de l'Église, il doit respecter les règlements intérieurs.
Oui, professeur, ne s'agit-il pas là un soutien aveugle, par exemple?
Non.
C'est-à-dire être militant, c'est vraiment vivre dans un soutien aveugle. Et c'est comme si on est dans une église, croire sans avoir vu.
Évidemment, évidemment. Le problème, c'est comment les partis essayent de développer la culture civique et
l'éducation civique.
Est-ce que les partis forment ces militants? Voyez, est-ce qu'il y a vraiment une formation idéologique? Est-ce qu'il y a une éducation civique? Le soutien n'est pas toujours aveugle. Le problème, c'est que quand on n'est pas dans ces partis-là, celui qui est de l'autre parti adverse, il voit tout soutien des membres d'un parti politique comme étant un soutien aveugle et parfois de manière injuste. Voyez? Mais il y a des soutiens qui sont justifiés parce que on ne peut pas appartenir à un parti politique sans apporter sa contribution, sans apporter son soutien à l'action de ce parti politique. Et celui qui est dans l'autre parti, c'est comme mon ami tout à l'heure a parlé, parce que lui ne voit que le soutien déjà du FCC. Alors que de part et d'autre, est-ce qu'il a dit un groupe de militants des autres partis d'opposition faire des déclarations contre les actions de leurs dirigeants, c'est pour dire que leurs dirigeants ne sont pas faillibles. Alors qu'il y a beaucoup de choses que nous condamnons, que la société condamne. Mais qui a levé le ton pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce que fait le chef de l'État qui appartient à son parti ?» Il n'y en a pas. Donc, c'est un peu ça. Évidemment, nous devons travailler, on doit beaucoup travailler sur l'éducation,
civique,
sur la formation idéologique, et afin que tout le monde intériorise les valeurs, voyez, afin que tout le monde intériorise les valeurs, les principes, les règles qui doivent régir les comportements des citoyens dans la société. Et dans tout cela, on doit s'appuyer sur la justice. Parce que tout cela doit être réglé, tout cela est même déjà réglé par les lois et règlements du pays. Et il y a un corps de personnes et il y a reçu mandat de veiller à ce que la loi, les règlements soient respectés. Et lorsqu'il y a faillite de ce côté-là, évidemment, on va qualifier tout le soutien, toutes les demandes, toutes les positions d'aveugle. Mmh.
Voilà. On va écouter les deux auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat et puis on reviendra à vous pour la conclusion de cette émission. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gérald Ngombo.
Quelle est votre contribution, Maître Gaston?
Bon, personnellement, Gérald, même si vous êtes un membre de ma famille, je ne peux pas vous soutenir. Lorsque je vois que vous n'avez pas raison dans ce que vous êtes en train de faire. C'est cette manière-là qui devrait guider, que ce soit les partisans aveugles ou ceux qui connaissent. Parce que lorsque nous agissons par sentiment et on met de côté la raison. Je pense qu'il faut soutenir celui qui a raison et non celui qui a tort. Dans les cas d'espèce, dans les deux cas que vous venez de faire allusion, je pense que ces gens-là n'avaient pas intérêt, surtout ceux de FCC, n'avaient pas intérêt à nous présenter ce scénario qui s'est passé là, parce que ça ne rentrait pas dans la logique des activités régulières. Et même s'il y avait discussion, ça ne devrait pas se passer dans ce sens-là. Alors, nous avions vu qu'il y a une bassesse à ce niveau-là et un groupe de gens se permet de soutenir un monsieur qui s'est comporté dans ce sens-là. Là, j'appelle ça un soutien aveugle. Sachant bien que peut-être ils avaient vu que leurs intérêts étaient en jeu. Je dis pas l'intérêt de la nation, mais leurs intérêts étaient en jeu et ils étaient forcés d'agir dans ce sens-là. Et surtout aussi que si lors des manèges d'une autorité morale, vous savez, avec l'autorité morale, on ne refuse rien. Tout ce qui vient de là, on accepte et on l'applique au risque de perdre tout ce que vous aviez comme intérêt. Mmh. Pour le cas du Congo central, moi je ne pense pas que c'est tout le Congo central, hein, parce que peut-être quelques partisans qui se retrouvent aussi dans les comptes de Nomwanantse, mais qui cherchaient aussi à avoir sa part.
Mais la plupart des notables, notamment, parce que si nous prenons les cas du gouverneur du Congo central, et c'est que l'honorable influent, Papi Matezoa, pour ne pas les citer, et qui a aussi mis le vœu de voir qu'on puisse écouter et de recevoir les désirata de Nomwanantse. Bref, il y a eu des soutiens. Voilà. Merci beaucoup, Maître Gaston, on n'a pas assez de temps. On va prendre Josué Hassani qui est à Bukavu. Josué.
Merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je voudrais faire mon analyse avec des lunettes juridiques.
Voilà, je suis.
Le soutien est aveugle ou pas, bon ou mauvais.
Voilà, on a des petits soucis avec la communication des Josué. On ne saura pas le garder parce que là, il y a vraiment les soins métalliques. On ne saura pas les garder. Nous revenons à vous, honorable Faustin Toegano. C'est vrai. Donc, bref, on peut dire qu'il faudrait quand même réglementer la vie politique, la vie publique à RDC et soumettre les agents publics au respect de la loi. Vous l'avez dit au début de l'émission. Ça paraît quand même être impérieux et c'est quand même nécessaire aussi de les faire et de mettre quand même d'accorder l'urgence à ces besoins.
Tout à fait. Moi, je pense que c'est là où nous devons beaucoup insister. Donc, on ne va pas, il ne faut pas qu'on focalise les débats sur le soutien de tel ou tel vis-à-vis de tel ou tel autre. Ce soutien a toujours existé, il existe partout à travers le monde. Mais ça prend des formes différentes et ceux qui soutiennent, ceux qui expriment leur soutien, ils jouissent d'une certaine liberté constitutionnelle, légale, et on ne peut pas les empêcher de soutenir. Et cela ne peut pas arrêter la justice, ne peut pas faire de sorte que la justice ne puisse pas faire son travail. De quoi qu'on peut soutenir, on peut contredire, on peut se soulever contre un ordre établi, une décision prise, mais ce n'est pas ça qui détermine. Le plus important, c'est qu'il y a une institution, il y a un corps de citoyens dans notre pays qui ont reçu de l'État la mission de faire toute la lumière sur les questions qui font l'objet des débats et d'établir des responsabilités et de sanctionner ceux qui sont retenus comme état coupable de ceci ou de cela conformément à la loi. Mais quant au problème de soutien de ceci, je ne vois pas pourquoi on peut empêcher les partisans d'une église de soutenir leur chef spirituel. Je ne vois pas pourquoi on peut interdire à
militant
coutumier d'être soutenu par ces citoyens sur qui il a de l'autorité. On ne peut pas interdire aux militants d'un parti politique d'apporter leur soutien à leur leader politique. Je crois que le problème ne doit pas être à ce niveau-là, et ça c'est tout à fait naturel là où fonctionne le système politique, mais ce n'est pas ça qui doit empêcher la justice de faire son travail. Parce que la vie publique est organisée, est réglementée, et la justice a la mission d'appliquer la loi et de sanctionner toute déviation.
Honorable Faustin Toegano, vous êtes politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'échanger avec les auditeurs.
Merci beaucoup.
On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. À très bientôt.